Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées.
Je suis une mouche verte. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique.
Et toi, quel est ton nom?
Je suis Morbac le Morpion. Regardez comme je suis mignon. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poil. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poil. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 si vous nous rejoignez. Je suis aujourd'hui en compagnie de notre invité Patrick Prévost. Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci beaucoup et bonjour aux auditeurs. Je suis content de pouvoir parler de ce qui me passionne depuis que je suis tout petit.
Eh oui, vous êtes venu sur Chauvigny. Vous êtes originaire de quelle commune?
Alors, je suis originaire de la région parisienne, mais dans les années 80, j'ai migré vers le Poitou et maintenant j'habite à Latus-Saint-Rémy.
Je remercie d'ailleurs Antoine Sellos, le maire de Latus-Saint-Rémy.
Oui, tout à fait, que je connais bien.
Voilà, oui, d'avoir permis ce contact. Et je vous ai vu il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus trop, dans la Nouvelle République par rapport à une conférence que vous aviez donnée sur les insectes. C'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui, l'idée de vous faire intervenir pour ces animaux qui sont méconnus, on va dire, c'est un doux euphémisme, qui font peur aussi, hein.
Oui, on pourrait qualifier l'insecte de mi-démon, mi-merveille.
Oui, tout à fait.
C'est
oui.
Capable du meilleur comme du pire. Et c'est souvent cette image un peu d'insecte nuisible que retient le public. Et c'est pour ça qu'il y a peu d'intérêt sur la disparition de l'entomofaune actuellement, parce que même au niveau politique, personne ne prend vraiment en compte la disparition de la biodiversité. Et pourtant, c'est un sujet qui est traité par les scientifiques depuis plus de 20 ans maintenant.
Exactement. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser aux insectes?
Alors, d'abord, tout petit, j'étais à quatre pattes devant le soubassement de la maison de mes grands-parents, en train de regarder les fourmis qui couraient sur la dalle en béton. Bon, après, j'ai une formation de biologie médicale et j'ai fait toute la fin de ma carrière dans un laboratoire d'analyse de Poitiers où je faisais la bactériologie et la parasitologie. Et en parasitologie, il y a beaucoup de maladies qui sont induites par des insectes. Puis, une fois arrivé à la retraite, j'avais tout le temps disponible pour pouvoir me consacrer pleinement aux insectes. Mmh. Et j'ai d'ailleurs, avec un ami entomologiste, nous avons monté une société d'édition qui s'appelle Magellan, avec un S à la fin, et qui publie des livres entomologiques destinés aux gens qui font des inventaires dans les milieux intertropicaux.
Une maison d'édition qui est basée sur quoi? Sur la région parisienne?
Non, oui, qui est basée sur la région parisienne, hein, à Conflans-Sainte-Honorine. Et nous éditons des faunes. Et nous travaillons également avec le Conservatoire des espaces naturels de Corse.
D'accord.
Où on est en train de faire toute une série de livres sur les coléoptères de Corse, ce qui permet aux gens du Conservatoire des espaces naturels de pouvoir peaufiner des inventaires afin de protéger des zones humides qui sont menacées en Corse par l'extension de l'urbanisation.
On le voit et on en parle pendant cette émission, hein, beaucoup de choses au niveau des insectes. Des insectes qui sont méconnus, qui remontent à quelques millénaires, on va dire, à quelques millions d'années même. Hein.
Mais c'est des millions d'années, oui, parce que l'histoire des insectes a trouvé ses origines il y a plus de 450 millions d'années. Hein. Oui. On était tout au début de l'ère primaire. Et il est apparu dans les océans des êtres qui étaient des êtres articulés, qu'on a appelé des arthropodes. Les premiers de ces arthropodes, c'était les trilobites. Et c'est-à-dire des êtres articulés avec une tête, un thorax, un abdomen et des pattes qui permettaient le mouvement. Alors, en plus, ces arthropodes avaient une carapace externe, c'est-à-dire que contrairement à nous qui avons un squelette interne et des muscles et des organes accroché à ce squelette et contenu par une enveloppe cutanée, chez les arthropodes, c'est l'inverse. Le squelette est extérieur et tous les muscles et les organes sont à l'intérieur. Alors, ça a permis à ces premiers arthropodes d'être très résistants, de supporter la pression de l'eau des océans. Et puis, ça leur permettait aussi, en cas de danger, de procéder à une coaptation d'enroulement, c'est-à-dire ils s'enroulaient sur eux-mêmes, hein. Et puis ça faisait une boule, une carapace, et puis ils étaient un peu invulnérables par les prédateurs. Cette forme était certainement une grande réussite évolutive, parce que l'évolution a créé, on connaît, plus de 18 000 espèces de trilobites fossiles. Alors après, il y a un chaînon qui manque un peu, ces trilobites ont dû se modifier un peu, et puis ça a donné de nouveaux arthropodes, toujours construits sur le même principe, et ces arthropodes ont gagné la terre ferme, sont sortis sur les terres émergées, et ça, il y a eu de nouvelles radiations évolutives qui se sont créées, et ça a donné naissance aux arachnides, les araignées, ça a donné naissance aux myriapodes, qui sont les mille pattes, aux crustacés terrestres, comme les cloportes qui vivent dans le bois mort, et ça a donné une autre radiation, qui s'appelle les hexapodes, c'est-à-dire les insectes, qui sont eux aussi composés d'une tête, d'un thorax, d'un abdomen, de trois paires de pattes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les hexapodes, hexa 6.
D'accord.
Et ces insectes, à leur tour, se sont énormément diversifiés en plusieurs ordres et ont réussi à coloniser la totalité de la planète.
C'est vrai qu'on en trouve partout.
On en trouve partout, dans les abysses les plus profonds. On en trouve dans les forêts tropicales épaisses. On en trouve dans les montagnes jusqu'à la limite des névés. On en trouve un peu partout, dans les eaux douces comme dans les déserts. Et la seule zone qui n'est pas encore sur laquelle ils n'ont pas étendu leur hégémonie, c'est les océans. Bien que la zone de balancement des marées soit déjà conquise par les insectes.
Donc ça, c'est l'évolution à venir, en fait. Hein, l'évolution, c'est
oui.
Les océans.
Et alors, c'est en bonne voie, si on peut dire, parce que dernièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait des punaises qui se développaient sur le septième continent, là, le continent qui est composé de plastique. Ouais, voilà.
Les dimensions de ces animaux à l'époque, il y a 450 millions d'années, c'était à peu près les mêmes qu'aujourd'hui ou c'était beaucoup plus gros ?
Non, il y en avait qui avaient exactement la taille de ceux qu'on... Alors à 450 millions d'années, ils n'étaient pas encore sortis de Terre.
Oui, tout à fait. Hein,
à partir de 400 millions d'années, on a vraiment des fossiles à partir du Dévonien, c'est-à-dire il y a 350 millions d'années. Mais quand on trouve... C'est l'ère primaire, hein, ça. Quand on trouve des êtres suffisamment évolués il y a 350 millions d'années, c'est que leur évolution a commencé bien avant. Hein.
Tout à fait, oui.
Hein, si on trouve une Ferrari, on n'a pas tout de suite construit une Ferrari, on a construit des trucs moins perfectionnés.
Exactement. Avant. Je rappelle d'ailleurs que l'origine de l'homme, c'est 3 millions d'années maximum. Hein.
Alors, les australopithèques, les premiers australopithèques, c'est 3 millions d'années. Voilà. L'homo sapiens, notre espèce, c'est 300 000 ans.
Oui, voilà, donc c'est pour ça, ça remet
donc
un peu les chiffres des valeurs.
On est un petit peu ridicule, quoi.
Exactement, hein, oui.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on parle des temps préhistoriques, on a l'image des dinosaures. Mais il faut savoir que les dinosaures sont apparus à l'ère secondaire, c'est-à-dire plus de 100 millions d'années après les premiers insectes.
Oui, donc, oui.
Donc,
Là, c'est vrai que c'est énorme quand on reprend l'échelle du temps. Oui. On le dit souvent, hein, si on regardait l'échelle du temps par rapport à une année, l'homme n'est arrivé qu'à 23h au moment du réveillon du premier de l'an.
23h59, quoi.
Oui, voilà, on est arrivé vraiment très très loin, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a réussi en très peu de temps à peut-être saccager, hein, on verra tout à l'heure, à faire en sorte de pratiquement faire disparaître des espèces, alors que nous sommes là bien après elles. Au niveau de ces insectes, l'évolution, aujourd'hui, on a combien de catégories,
Alors, on a actuellement nommé à peu près 1 500 000 espèces d'insectes. Mais tout le monde s'accorde à penser qu'il y en a énormément qu'on ne connaît pas encore, et le nombre est certainement de 5 millions d'espèces, et peut-être plus. Parce que parmi les insectes, il y a ceux qui sont suffisamment importants, qui sont suffisamment gros pour qu'on les perçoive assez facilement, mais il y a toute une faune d'insectes qui est pas microscopique, mais très petit, de l'ordre du millimètre, quoi. Et ceux-là sont évidemment beaucoup plus difficiles à trouver, et sont surtout beaucoup plus difficiles à étudier sur la longévité, dans le temps, quoi.
L'espérance de vie d'un insecte, ça doit varier, je suppose, en fonction des races,
des
espèces.
Ça varie en fonction des espèces. Il y a certains insectes qui ne sont que des organes de reproduction, en fin de compte. Ils naissent, ils s'accouplent, et les femelles pondent, les mâles meurent, et les femelles pondent meurent peu de temps après. Il y en a d'autres qui peuvent vivre beaucoup plus longtemps. Si on prend, par exemple, une reine chez les abeilles, elle peut vivre 5 ans.
D'accord, oui.
Ça dépend. En principe, la durée de vie est relativement courte.
Vous parliez de ces insectes qui vivent, qui meurent assez rapidement. Il y a une forme d'intelligence quand même chez ces animaux, ces bêtes-là? On en doute quelquefois, hein, quand on vient de nous piquer.
C'est un sujet qui a souvent fait débat, parce que quand on met un insecte dans des conditions qui ne lui plaisent pas, il les quitte pour essayer de trouver un endroit où c'est plus agréable, enfin plus possible pour lui de vivre. Donc il faut avoir une certaine forme d'intelligence basique pour se dire « c'est pas bon pour moi, je me déplace ». Maintenant, c'est pas une intelligence au sens où on l'entend pour l'espèce humaine. Parce que chez les insectes, il n'y a pas ce langage abstrait qui permet de s'imaginer des choses sans les voir. Si je vous dis marteau, immédiatement vous imaginez clou, planche, travail et tout ça. Chez l'insecte, c'est pas comme ça. Il réagit aux stimuli.
C'est plus une forme d'instinct, en fait.
Voilà,
il y a
une forme d'instinct, il y a une forme de réaction à des stimuli qui lui sont confortables ou non, quoi.
On peut supposer que certains sont peut-être plus intelligents que d'autres. Je parle des fourmis, par exemple, des abeilles qui vivent en communauté, plutôt qu'un cloporte qui vivra seul.
Oui, mais c'est... comment je pourrais dire une espèce, ça, au niveau de l'évolution, une espèce, sa seule fonction, c'est de perpétuer l'espèce, justement. C'est son boulot. Et chez les fourmis, les abeilles, les guêpes, les frelons, il s'est créé des œufs sociétés, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que la reproduction de l'espèce est laissée à un seul individu qui est la reine. Pourquoi ça a été comme ça? C'est parce qu'il y a une génétique très particulière chez les hyménoptères et qui fait que lorsque la reine fait une ouvrière, les ouvrières entre elles ont une proximité génétique plus importante que si elles s'étaient reproduites elles-mêmes. Si elles avaient fait elles-mêmes des enfants, elles auraient 50% de proximité génétique entre elles et leurs enfants. Avec le système génétique des hyménoptères, la proximité génétique entre deux ouvrières d'abeilles, c'est de 75%. Elles ont donc avantage pour transmettre leur génome. Elles ont donc un avantage à laisser la reproduction à leur reine plutôt que de la faire elle-même.
D'accord.
C'est ce qui soude, en fin de compte, la colonie.
On le verra dans cette émission, on parle des colonies d'abeilles, on verra aussi qu'elles ont des prédateurs. On a l'homme qui est un prédateur, on a aussi le frelon, on en parle beaucoup, hein, du frelon asiatique.
Oui.
Alors c'est vrai qu'on traite les insectes différemment en fonction des espèces. On a celles qui nous sont bien pratiques, hein, qu'on apprécie, puis il y a toutes les autres qui sont sur les pare-brises des véhicules, hein, on est bien content de les voir dessus. C'est vrai que de ce côté-là, l'homme a toujours appréhendé les insectes de façon différente. On le voit dans les films, par exemple, hein, je pense notamment à Arthur et les Minimoys, où on voit qu'ils sont très sympathiques. Alors que dans la mouche, c'est l'inverse. Oui. C'est une peur ancestrale, en fait, hein, ces insectes.
Oui, oui, parce que depuis très longtemps, les hommes se sont aperçus que quand on laisse des denrées alimentaires sans aucune protection, il y a une dégradation qui sont faites par les insectes, par les mouches. Mm-hmm. Lorsqu'on se balade au bord d'une rivière ou d'une mare, on se fait piquer par les moustiques.
C'est ça.
Dans des pays africains, il y a des nuages de criquets qui vont ravager des récoltes.
Voilà, c'est donc, une plaie d'Égypte.
Voilà, l'homme a toujours eu, de prime abord, une appréhension des insectes parce qu'il ne voit que les insectes qui sont nuisibles pour lui. Mais par contre, il y a toute une myriade d'insectes qui sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes. On parle notamment des pollinisateurs, qui vont quand même permettre la pollinisation de 70% des plantes qu'on consomme. Il y a tous les insectes nécrophages qui vont faire disparaître les cadavres d'animaux sauvages qui vont mourir dans la nature. On a les coprophages qui vont enfouir les excréments du bétail.
Et on a les asticots, les derniers pour nous, ce qui nous concerne, lorsqu'on arrive en terre malheureusement. On va se faire une petite pause musicale, tiens, on reviendra tout de suite après. C'est Vita et Julien Doré qui nous chantent « Viens, on essaye » et on revient dans quelques minutes.
D'habitude, me prends pas la tête. Là, c'est foutu d'avance. On arrête, on commence. Je sais plus ce que je fais. Ça va finir par me plaire. Toi et moi, on se fait la guerre. Je vais finir par me faire mêler de tes affaires. Oublie le tête à tête. Si je t'embête, ça serait chouette ou pas. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot.
M'abîmer la tête. Tu veux jouer, on commence. Mais les dés, je les lance. Je crois que tu me plais. Ça va finir par me plaire. Toi et moi, on se fait la guerre. Je vais finir par le faire. Mêler de tes affaires. Oublie le tête à tête. Si je t'embête, ça sera chouette ou pas. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot. Viens, on essaie, ouais. À quoi bon se cacher, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y'a plus d'effet, non. Je dirais à demi-mot.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Patrick Prévost, donc entomologiste. L'entomologie, c'est quoi exactement? On n'a pas parlé, hein. C'est une science?
Alors c'est une science, c'est la science qui s'occupe des insectes, aussi bien sur le plan de la systématique des insectes, c'est-à-dire leur classification, aussi bien que sur leur biologie et leur éthologie.
D'accord, donc une science assez large.
Alors c'est une science qui devient de plus en plus pluridisciplinaire, puisqu'avant, au début de l'entomologie, on faisait qu'observer les insectes et les décrire. Maintenant, on commence à les étudier sur le plan génétique. On commence à utiliser certains de leurs gènes pour les transférer sur d'autres espèces. Mm-hmm. Donc, C'est évidemment une science qui fait appel à la zoologie, à la chimie, à la physique, à la génétique, et c'est une science de plus en plus pluridisciplinaire, et qui a même tendance, l'entomologie systématique, l'entomologie qui étudie la morphologie des insectes, a tendance à disparaître un peu maintenant, parce qu'on s'oriente beaucoup plus vers la biologie moléculaire et la génétique. Maintenant, on fait des codes-barres, on essaye de code-barrer certaines parties de génome des insectes et on pense pouvoir les déterminer rien qu'en faisant du code-barre. Mais actuellement, la production de ces codes-barres se fait très souvent à partir d'insectes qui sont contenus dans les collections des musées. Et on prend un morceau de pâte, on fait de la génétique dessus et on sort un code-barre. Encore faut-il que l'insecte qu'on a pris ait été bien déterminé. Parce que sinon, on met un nom. Le code-barre porte un nom qui ne correspond pas à la... Il faut faire attention, quoi, de plus en plus. Et c'est de plus en plus difficile parce que des entomologistes, des systématiciens, les universités n'en forment plus. Tout au moins en France, il y a très peu d'endroits où on enseigne l'entomologie systématique.
Il m'a semblé pourtant avoir sur Poitiers, non, à l'université de Poitiers, on n'a pas de...
Non, ils font de la génétique, ils font de la biologie de biologie des populations.
D'accord.
Mais de la morphologie, ça, il n'y en a plus. D'ailleurs, il n'y a plus de chaire de zoologie à l'université de Poitiers.
On a un musée, quelque chose comme ça, pour voir un peu des insectes sur la Vienne ou sur la région ?
Sur la Vienne, non. Il y avait une collection d'insectes à Poitiers, petite collection d'insectes qui est dans un état lamentable parce qu'elle n'a jamais été entretenue, jamais bien protégée. Et comme l'université a abandonné l'enseignement de cette science, la collection est tombée un peu dans l'oubli et dans la négligence.
D'accord, j'ai cru voir que vous aviez une petite collection personnellement.
Il y a beaucoup d'insectes à la maison. Hein. Moi, je m'occupe principalement des insectes coprophages et j'ai une collection assez importante de coprophages africains surtout.
D'accord, c'est vrai que l'Afrique était une terre d'insectes aussi. On parle de l'Afrique justement, j'ai toujours été impressionné moi par rapport à ces termitières. Alors je me suis demandé à quoi ça pouvait servir une termitière au milieu d'une terre, quoi. C'est le rôle de la termite, à part d'aller dégrader une maison.
Non, parce que ces termites qui font les grandes termitières, oui, comme voilà. Ça, c'est pas du tout les mêmes espèces que celles qui viennent manger le bois des maisons là, chez nous. Hein. Ils créent ces grandes structures parce qu'à l'intérieur, ils organisent ça un peu comme ils veulent et ça permet une circulation de l'air, de l'humidité. Et c'est eux qui gèrent un peu cette construction. Quoi.
D'accord, elles sont organisées en colonies en fait.
Oui.
Avec une communication entre elles, je suppose,
bien
établie.
Alors, la communication chez les termites, elle est surtout, c'est une communication qui est chimique. Hein. Ils émettent des substances et ils ont des récepteurs au niveau des antennes et en touchant leurs antennes, ils se transmettent des informations comme ça. Ça existe aussi au niveau chez les abeilles, par exemple. Il y a cette communication entre individus, mais les abeilles ont aussi un mode de communication par une gestuelle. D'accord. C'est ce qu'on appelle la danse des abeilles. Lorsqu'une abeille, en partant butiner, se rend compte qu'il y a un champ sur lequel il y a une grosse ressource, elle rentre à la ruche, elle se pose sur le socle de la ruche, et puis elle s'oriente selon l'angle auquel est la ressource par rapport au soleil. Elle prend le soleil comme référence et elle se tourne vers la ressource. Et puis là, elle se met à parcourir un 8, comme ça. Et à chaque fois qu'elle est dans les boucles internes du 8, le temps qu'elle met à parcourir ce 8 renseigne sur la distance de la ressource. Et tout en parcourant cette partie du 8, elle frétille. Et l'intensité du frétillement renseigne sur la richesse de la ressource. Les autres en prennent connaissance, connaissent l'angle par rapport au soleil, la distance, et les autres butineuses se dirigent vers cette...
Oui, donc tout à l'heure, quand je parlais d'intelligence, il y a nécessairement une forme
oui,
d'intelligence.
Oui, il y a une forme d'intelligence, de compréhension de signaux qui sont spécifiques à l'espèce, quoi.
C'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, on a à peu près la même chose aujourd'hui avec nos adolescents. Hein. Il suffit de leur mettre, faire le frétiller un paquet de chips, et puis à la rigueur, ils écartent les yeux de l'ordinateur pendant 2-3 minutes. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au niveau des insectes. Les insectes, d'ailleurs, on en parle des abeilles. Les abeilles qui sont en voie, entre guillemets, de disparition, je pense que ça s'arrange peut-être. On a pris un peu conscience, les insecticides, notamment. Alors, on a créé des armes pour les détruire, pour essayer de les détruire, sans penser que derrière, elles avaient un rôle.
Oui, alors initialement, on n'a pas créé ces insecticides pour détruire les abeilles. On a créé des insecticides pour détruire les insectes qui sont des parasites ou des ravageurs des cultures. Mais à partir du moment où un produit est toxique pour un insecte, il va l'être pour une autre espèce. Et c'est comme ça que les colonies d'abeilles ont été impactées. Maintenant, il y a autre chose, on parle souvent des insecticides, mais il y a aussi les herbicides qui ont été nocifs pour les abeilles. Parce que quand on met des herbicides dans un champ, ça détruit toutes les herbes et toutes les fleurs qui peuvent être aux alentours ou sur ce champ. Ça veut dire que la ressource en nectar pour les abeilles disparaît en même temps que les plantes à fleurs. Et puis, Quand le glyphosate est apparu, on a dit bah, c'est merveilleux parce que c'est un herbicide qui détruit les plantes parce que le glyphosate bloque un enzyme qui permet la croissance des plantes. Et cette enzyme n'existe que chez les végétaux. Donc, pas de danger pour tout le règne animal. Sauf que cette enzyme, elle existe aussi chez des bactéries. Et notamment chez les bactéries qui sont dans le tractus digestif de l'abeille. Tout comme nous avons dans notre intestin énormément de bactéries. Hein. Toute cette flore bactérienne, elle est tellement importante que quand une bactérie pathogène arrive, elle n'a pas la place. Elle n'a pas la place pour s'introduire. C'est un peu comme si je pouvais faire une analogie. Quand vous êtes à Paris dans le métro et que vous êtes sur une station qui n'a pas de correspondance, que le métro arrive à des heures d'affluence, le wagon est complètement plein et pour rentrer dedans, vous êtes obligé de faire le forcing.
C'est ça, tout à fait, oui.
Alors, il y a dans le tractus digestif des abeilles et dans le nôtre, des bactéries qui contiennent cette enzyme de croissance. Et quand elles sont soumises au glyphosate, ben ces bactéries meurent et ça laisse de la place pour les bactéries pathogènes.
D'accord.
C'est des expériences qui ont été faites. Hein. On a élevé des abeilles qui allaient sur des champs qui étaient traités au glyphosate et on a élevé d'autres abeilles qui n'avaient aucun contact avec le glyphosate. Et après, on les a soumis chaque population a été soumise à des populations bactériennes, notamment Serratia marcescens, qui est une bactérie qui est pathogène pour les insectes, pour les abeilles, qui est également pathogène pour nous, hein, puisqu'il y a des infections nosocomiales dans les hôpitaux qui sont liées à des Serratia. Eh bien, celles qui ont été sur le glyphosate, il y a une très grande quantité d'abeilles qui sont mortes, alors que sur celles qui n'avaient pas de contact avec le glyphosate, il n'y a que quelques individus, les plus faibles, qui sont morts. Quoi.
Ah oui, donc nos abeilles n'ont vraiment pas de chance entre les insecticides, les herbicides, et puis les colonies aussi. On parle notamment des frelons asiatiques qui sont arrivés.
Oui,
là, c'est pareil, c'est un problème pour l'élevage, je suppose.
Bien sûr, parce que les abeilles, pour nourrir leurs larves, les nourrissent avec du pollen. Ils fabriquent le miel avec le nectar des fleurs, mais ils élèvent leurs larves avec le pollen des fleurs. Ce sont des végétariens, en fin de compte, c'est une espèce végétarienne. C'est pas pareil pour les frelons ou les guêpes, qui nourrissent leurs larves avec de la chair, avec du produit animal.
D'accord.
Les guêpes et les frelons chassent, triturent, attrapent d'autres insectes, triturent les téguments et vont nourrir leurs larves avec ça. Donc, évidemment, quand les frelons ont pas mal de larves à nourrir et qu'il y a devant eux une ruche qui est une manne alimentaire, ils se jettent dessus. Et moi, j'ai vu très souvent les frelons qui sont en vol stationnaire devant les ruches, comme ça. Et dès qu'une abeille s'envole, toc, il la tape. Quoi.
Qu'est-ce qui a pu les amener? Parce qu'on parle souvent de bateaux, de choses comme ça. Ou de...
Oui, c'est
étonnant
venu,
qu'une espèce se développe aussi rapidement. Quoi,
oui,
en fait.
C'est venu avec des plantes qui ont été apportées, hein. Ça vient d'Asie. Et il faut savoir que quand arrive la fin de la saison, les femelles qui sont de futures reproductrices se sont accouplées. La femelle féconde s'est envolée. Elle cherche un trou dans le sol, quelque part, dans un talus, pour y passer l'hiver. Tout le restant de la colonie meurt. Et évidemment, il y a peut-être, c'est pareil pour les frelons asiatiques, et il y a certainement dans les pays d'origine, eh ben, chez des arboriculteurs et tout ça, ben, elles sont peut-être venues s'enterrer dans des pots de fleurs avec des plantes qui vont être exportées vers l'Europe occidentale. Et c'est comme ça qu'elles sont arrivées sur le sol français. Et comme le climat, on a un climat qui est tempéré, bah, tout va bien pour le frelon, quoi. Il n'a pas besoin d'un... Si c'était une espèce tropicale, ça serait beaucoup plus dur, parce qu'on a quand même des hivers qui sont plus rigoureux qu'en Afrique tropicale, quoi.
Tout à fait. On s'aperçoit que ce qui se passe en Chine, donc nous concerne aujourd'hui d'assez près. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est un peu ce que vous disiez, on va faire une pause musicale. Benabar, il y a quelques années, avec l'effet papillon, tiens, justement.
Si le battement d'ailes d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. On l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos. Un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papilles,
un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal,
c'est l'effet papillon, c'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses.
Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole.
Nous sommes toujours sur RECS 3.7 et les chemins de traverse en compagnie de Patrick Prévost, donc entomologiste. On parlait un instant des insectes, on n'a pas parlé du changement climatique. C'est vrai qu'il y a énormément de choses, on s'aperçoit que les insectes viennent de Chine ou d'ailleurs, hein, petit à petit en France. On parlait hors antenne d'ailleurs, on peut le dire, des moustiques tigres, tiens, qui eux sont venus aussi se rapprochent de chez nous. Tout ça, c'est un peu lié au changement climatique, au fait que la France se réchauffe, enfin, l'Europe...
Alors... Voilà, la France, l'Europe occidentale, se réchauffe. Donc, les conditions climatiques de notre pays peuvent correspondre à des espèces qui vivaient dans des zones intertropicales et qui étaient habituées à des climats un peu plus chauds. Le nôtre se réchauffant, eh bien, c'est une possibilité d'extension de l'espèce. Et le commerce mondial facilite justement cette propagation, puisque les espèces invasives arrivent pas comme ça au vol directement des zones intertropicales jusqu'en Europe occidentale. Ils sont véhiculés par le commerce international, par des pots de fleurs, par tout un tas de matériaux qui sont exportés de pays où sont originaires ces insectes vers l'Europe occidentale.
Vous me parliez notamment du moustique tigre, hein, qui arrive par des pneus.
Oui, voilà, il est arrivé par le transport de pneus de zones d'Asie du Sud-Est vers la Slovénie. Et de là, il a gagné l'Italie, puis le sud de la France, puis la Suisse, puis après la Corse, l'Espagne, et puis maintenant toute la France, puisqu'il est présent sur quasiment tout le territoire français.
Exactement. Alors, il y a ces espèces invasives, on va dire. Il y a aussi les espèces locales, hein, qui sont là depuis des siècles et qu'on méconnaît beaucoup, qui sont très utiles et qu'il faut protéger parce qu'elles ne sont pas habituées à ce réchauffement. Beaucoup d'espèces disparaissent actuellement.
Oui. Alors, l'ensemble du public ne se rend pas trop compte de cette disparition massive des insectes. Parce que ça m'amène à penser à un naturaliste du XVIIIe siècle qui s'appelait Carl von Linné et qui disait qu'à partir du moment où on n'est pas capable de nommer une espèce, quelque chose qui a existé, on l'oubliera et on ne le connaîtra pas. Et Linné a créé ce qu'on appelle maintenant la nomenclature binominale, c'est-à-dire que tout ce qui est vivant, aussi bien végétal qu'animal, est désigné par deux noms, un nom de genre et un nom d'espèce. Nous sommes des homo sapiens, nous appartenons au genre homo et nous sommes l'espèce sapiens. Avant nous, il y a eu l'homo néandertalis et on a cohabité pendant un certain temps. C'est pour ça que toutes les espèces d'insectes, toutes les espèces de mammifères, quel que soit le monde vivant ou le monde animal ou végétal, tout est désigné par deux mots, un nom de genre et un nom d'espèce. Et comme tous ces mots sont des mots latins, il est parfois très difficile pour ceux qui ne sont pas habitués à manipuler ces mots, de retenir leur nom. Alors il existe aussi, pour chaque insecte, pas pour tous, hein, il existe ce qu'on appelle un nom vernaculaire, hein, c'est-à-dire pour nous, par exemple, on est des homo sapiens, mais le nom classique, c'est homme ou être humain. C'est plus facile à retenir. Pour les insectes, la mouche domestique, c'est Musca domestica, de son nom scientifique. Son nom courant pour tout le monde, c'est la mouche domestique. Alors, les noms vernaculaires permettent aux gens de pouvoir parler des insectes, mais par contre, les noms vernaculaires changent très souvent avec les régions et les pays, alors que le nom latin, lui, est international, et quel que soit le scientifique et quel que soit le pays dans lequel il travaille, la mouche domestique, c'est toujours Musca domestica.
D'accord, ça permet de les conserver. Alors, je rassure nos auditeurs, tiens, pour le tic-tic-tic qu'ils entendent depuis tout à l'heure, c'est un stylo tout simplement, hein, qui fait un peu de bruit. Et c'est pour éviter de vous inquiéter, nous ne sommes pas envahis par les insectes, on en parle pendant une heure et on en parle bien avec Patrick Prévost. On parlait du réchauffement climatique qui arrive. Hein.
Alors oui, le réchauffement climatique. Donc, nos conditions de réchauffement de notre climat font que des espèces qui ne sont pas de chez nous vont pouvoir s'acclimater sur notre territoire. Bien évidemment, ces insectes qui arrivent d'ailleurs trouvent très rarement leurs prédateurs sur notre sol. Donc, ils peuvent pulluler. C'est le cas, par exemple, du frelon asiatique qui n'a pas de prédateurs lorsqu'il arrive en France. Le problème du réchauffement climatique, c'est que d'abord, quand il fait plus chaud, par exemple, eh bien, tout ce qui est vivant, animal, cherche des conditions qui vont être meilleures, plus fraîches. Alors, pour des insectes relativement gros, eh bien, il y a le vol qui leur permet de se déplacer. Mais pour des insectes qui sont très petits, comme des toutes petites chrysomèles, qui vivent sur une feuille et des fois que sur la feuille du végétal auquel elles sont inféodées, eh ben, quand il y a un réchauffement climatique trop important, elles peuvent pas fuir. Elles n'ont que leurs feuilles ou leurs plantes pour se réfugier. Et évidemment, les conditions de vie pour ces espèces sont beaucoup plus difficiles. En plus, on a beaucoup d'espèces qui sont inféodées à une plante. Certains papillons, par exemple, ne vivent que sur une seule plante. Et lorsque les conditions climatiques sont telles que la plante ne peut plus se développer, eh bien, les chenilles des papillons n'ont plus de ressources alimentaires. Donc, l'espèce est menacée. Alors, les papillons, eux, peuvent se déplacer vers des régions plus fraîches où la plante existe, mais si la plante n'existe pas ou si elle est à sa limite de dispersion, eh bien, l'espèce a beaucoup de mal à s'acclimater. Et en plus, les plantes se déplacent beaucoup moins vite que les insectes. Donc, y a des espèces qui migrent vers l'altitude pour avoir des conditions climatiques qui leur correspondent mieux, mais elles ne trouvent pas toutes les plantes nécessaires à leur reproduction sur les lieux qu'elles ont de nouveau colonisés.
On le voit, l'évolution fait que les insectes sont en danger, en risque de disparaître au niveau de nos campagnes, avec les insecticides, les herbicides. Au niveau des villes, on a l'impression qu'il y a un mouvement qui est de végétaliser. Est-ce que c'est une bonne chose pour eux ou est-ce que c'est juste un gadget, j'allais dire, qui fait plaisir à l'homme ?
Non, à partir du moment où on végétalise un endroit, c'est autant de niches écologiques qui vont pouvoir être colonisées par les insectes. On s'est aperçu, par exemple, que les abeilles qu'on mettait sur les toits à Paris, ouais. Ces ruches se portaient relativement bien, parce que sur les balcons, partout, il y a des fleurs, il y a des géraniums, il y a tout un tas de plantes, et qu'elles trouvent leurs ressources là-dessus.
Donc l'intérêt d'avoir ces ruches. Mais en même temps, c'est un autre intérêt, c'est pour les enfants, pour l'éducation des enfants. C'est important, ça, d'éduquer les enfants à la connaissance de ces espèces.
Oui, mais c'est plus enseigné dans aucune école. Moi, j'ai connu, quand j'étais tout gamin et que j'étais à l'école primaire, il y avait la bibliothèque, et dans la bibliothèque, il y avait quelques collections d'insectes. Maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a plus du tout ça. Hein. Et puis, ils sont beaucoup moins en contact avec les insectes, parce que dès qu'il y a un moustique qui vole dans la maison, on met de l'insecticide. On s'arrange pour d'avoir le moins de contact possible avec les insectes. Et une chose est assez flagrante, je me rappelle aussi, étant gamin, quand on roulait la nuit avec mon père, en voiture, le pare-brise était maculé de papillons, de choses comme ça. Et dans les stations-service, il y avait un seau avec une raclette et une éponge, et quand on mettait de l'essence dans la voiture, on avait le nécessaire pour nettoyer le pare-brise. Tout ça, ça n'existe plus, il y a très peu. Maintenant, vous roulez 3 heures avec la voiture de nuit, vous n'avez plus, vous avez un impact ou deux de papillons.
Exactement, on a plus de chances, voilà, de se prendre une biche dans la région qu'un insecte.
Tout à fait. Ça, alors, c'est lié aussi, il y a aussi le fait que les voitures ont une forme beaucoup plus aérodynamique et que les insectes qui sont devant sont pris par le courant aérodynamique produit la voiture, et l'insecte va pas s'écraser comme avant sur le pare-brise. Mais ça, c'est un peu une raison pour laquelle il y en a moins, mais c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup moins d'insectes. Il y a une étude allemande qui a été faite, hein, il y a quelque temps, et qui avait commencé il y a très longtemps. Ils avaient commencé cette étude il y a une vingtaine d'années, et ils s'occupaient de recenser tous les insectes volants qui existaient. Et ils se sont aperçus que, depuis le moment où ils ont commencé et maintenant, il y a 70% de la population d'insectes volants qui a disparu. C'est très, énorme. Très important. C'est pour ça qu'on n'a plus d'impact sur le pare-brise.
On va dire que toutes les espèces sont vouées un jour à disparaître. L'homme est là depuis 300 000 ans, un jour ou l'autre, lui aussi, il disparaîtra. Mais c'est vrai qu'on pourrait éviter, on a des choses à faire.
Oui.
Pas mal de choses pour les protéger. Il existe des lois, justement, qui protègent les insectes des études, des... parce que certains pays sont peut-être plus avancés que
d'autres. Il y a des lois qui protègent les insectes, mais très mal en fin de compte. Parce que on a par exemple en France et en Europe occidentale, on a un grand cérambicidé, le grand capricorne, qui a un insecte qui fait 10 cm de long et qui a des antennes qui en font une quinzaine.
Ah oui.
C'est une grosse bête. Et c'est cet insecte lorsqu'il émerge, qu'il a fini sa métamorphose, qu'il émerge, c'est lui qui fait ces trous ovales qu'on voit dans les chênes.
D'accord, oui.
Des trous bien ronds, bien ovales. Et ben, la femelle, elle, a pondu des œufs 3 ans plus tôt sur le chêne. L'insecte s'est développé en mangeant le bois du chêne. Et quand il a été complètement adulte, au moment où il sort, il crée ce trou ovale qui est gros comme une amande. Facilement pour sortir. Eh bien, il est interdit de posséder cet insecte en collection, il est interdit de détruire les larves, il est interdit de détruire les œufs. Par contre, l'agriculteur du coin, il peut couper le chêne, il n'y a pas de problème. Donc, il y a une protection, c'est-à-dire...
Oui, qui est toute relative dans les textes.
Moi qui collectionne les insectes, on va venir me chercher des poux parce que j'ai quelques cérambiques cerdos dans la collection, et par contre... Les 4 ou 5 chênes qui ont été abattus, dans lesquels il y avait des larves.
C'est ça, la petite question qui fâche. Hein, j'hésitais à vous la poser tout à l'heure. Comment on peut dire aimer les insectes et avoir une collection à la maison? C'est un peu paradoxal, non?
Eh bien, c'est parce que beaucoup d'insectes se ressemblent. Et que pour arriver à trouver de nouvelles espèces, il faut avoir un matériel de référence, de comparaison. Alors, il n'est pas question d'avoir, par exemple, des boîtes dans lesquelles il va y avoir 150 espèces, 150 individus de la même espèce. Mais c'est bien d'avoir quelques individus de chaque espèce pour pouvoir comparer en disant ça, je sais que c'est telle espèce, est-ce que c'est la même chose que j'ai sous la loupe? C'est ce qu'on appelle une collection de référence.
C'est ça, vous êtes, vous, en collectionneur, mais véritablement passionné, c'est votre, entre guillemets, métier, puisque vous êtes à la retraite aujourd'hui, je crois.
Oui,
voilà. Donc, mais c'était vraiment votre passion.
C'est exactement ce que dit ma femme, hein. Je suis pas... Elle trouve que c'est un peu chronophage comme...
Oui, certainement, mais après tout, vaut mieux ça que le bistrot. Voilà. Comme dit la mienne, je préfère aller à la radio plutôt que d'aller au bistrot. Donc...
Quand j'ai commencé à faire de l'entomologie, on m'a dit « Ah, tu fais de l'entomologie, tu verras. T'es jeune, tu vas mettre les yeux sur une loupe binoculaire. Quand tu lèveras les yeux de la loupe binoculaire, t'auras les cheveux blancs. J'y croyais pas trop et je constate que c'est le cas.
Eh bien, écoutez, on va se faire une dernière pause musicale. Tiens, okay. On va s'écouter M'envoler avec Jack et Carla. Et on revient tout de suite après. On parlera juste après du rôle des insectes dans l'avenir de l'homme. Merci. À tout de suite.
Encore un soir, encore une heure. Toujours ce désert dans mon cœur. Je broie du noir là, je suis pas d'humeur. Dis-moi, il est où le bonheur? 10 ans plus tard et autant d'erreurs. Toujours ce parfum, cette odeur. Je veux nous revoir ici ou ailleurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombrisse et nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Rien que toi et moi, je veux m'envoler. M'envoler, m'envoler.
Dernier regard, dernière fleur. L'eau a coulé, les larmes meurent. Une autre histoire, un nom meilleur. S'abandonner, faire fuir nos peurs. Que nos mémoires effacent ces heures. Passer à torturer nos cœurs. Une dernière danse pour deux âmes sœurs.
Je veux m'envoler. Graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombrisse et nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Rien que toi et moi, je veux m'envoler. M'envoler. Je veux m'envoler.
aimer, braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel soit sombre et c'est nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Avec toi et moi, je veux m'envoler.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour la fin de cette émission. Il nous reste après un peu moins d'une dizaine de minutes à parler ensemble avec Patrick Prévost, donc entomologiste. On parlait de votre collection d'insectes. Ça m'arrivait moi aussi d'essayer de collectionner des insectes. Alors, ce n'est pas la même façon de le faire. J'avais, si j'ai bon souvenir, un scorpion. J'avais un criquet pèlerin aussi, me semble-t-il, c'est qui dévaste la 7e plaie d'Égypte, comme on l'appelle. J'avais récupéré ça au Maroc à l'époque. Et alors, pour le conserver, je ne sais pas comment trop faire. J'avais pris du formol, d'abord de l'eau chaude, de l'eau froide, le congélateur et ensuite le formol pour être sûr qu'il ne revienne pas à la vie. Je pense qu'il y a d'autres méthodes pour le faire, hein, plus simple. Alors, surtout, vous êtes collectionneur, vous le faites vous par passion, quoi.
C'était largement suffisant. Ce que vous avez fait, c'était largement suffisant pour le tuer.
Ouais,
ça, c'est certain. Pour le conserver, je suis moins sûr. Non, les insectes ayant un squelette externe, il suffit de les tuer. Normalement, les entomologistes asphyxient les insectes avec de l'éther acétique qui a la capacité de laisser les articulations souples. Une fois que l'insecte est mort, on bloque les pattes, on bloque l'insecte avec des épingles, sans piquer dans l'insecte, mais à côté de l'insecte, et on positionne l'insecte dans une position agréable à l'œil et surtout une position qui va permettre de pouvoir l'observer dans tous les sens. Et puis on laisse sécher, les organes qui sont à l'intérieur sèchent et le squelette qui est externe maintient l'insecte dans exactement l'apparence qu'il avait quand il était vivant. Alors après les collections, moi chez moi la collection c'est une collection de référence, c'est-à-dire il n'y a pas des pleines boîtes de la même espèce. Il y a des boîtes dans lesquelles il y a le plus d'espèces possibles, mais il y a des fois deux, trois, des fois un seul représentant par espèce. Et c'est une collection qui sert, comme je l'ai dit, de référence, c'est-à-dire quand on a sous la loupe binoculaire un insecte qui vient d'être attrapé quelque part, eh bien on peut voir s'il correspond à des insectes qu'on a déjà ou si c'est une nouvelle espèce à décrire.
Le genre de collection qui fait plaisir à madame ou je suppose que ça va être compliqué dans la maison, ça prend de la place?
Oui, ça prend un peu de place, la bibliothèque aussi, parce
oui,
que c'est très gourmand en documentation, entomologie. Oui, c'est surtout que ça prend beaucoup de temps et c'est ça qui passe moins bien.
C'est ça. À terme, c'est une collection qui pourrait être récupérée par un musée ou le plus tard possible. Mais,
Oui, c'est le problème. Hein. Vous savez, quand on dit souvent que quand un entomologiste meurt, c'est une bibliothèque et une collection qui meurent en même temps, quoi, parce que les héritiers ne sont pas toujours en mesure de s'occuper de ça, quoi.
L'écomusée de Saugé pourrait peut-être s'y intéresser, non?
Non.
Parce que vous êtes...
Non,
pas
non,
du
non,
tout.
Non, c'est pas du tout... C'est l'écomusée de Saugé, je fais partie du conseil scientifique de l'écomusée de Saugé, c'est pas un musée de zoologie ou d'histoire naturelle, hein. C'est un musée qui collectionne la mémoire du territoire. Donc non, mais ça peut être récupéré par le Muséum d'Histoire Naturelle, ça peut être récupéré aussi, je travaille beaucoup moi avec l'Institut Royal de Sciences Naturelles de Belgique, qui est à Bruxelles, où ils sont toujours prêts à aider, à prêter du matériel et pour que les amateurs puissent travailler avec.
D'accord.
Donc c'est peut-être une destination qu'aura ma collection, quoi, parce que... Je pense pas, j'ai des enfants qui m'ont vu tellement là-dedans qu'ils veulent pas du tout s'y intéresser. J'ai des petits-enfants qui préfèrent l'ordinateur, les portables.
Comme beaucoup.
Voilà, donc je vois pas dans mon entourage propre qui pourrait s'intéresser suffisamment pour faire perdurer cette collection. Donc je pense qu'elle ira vers un musée.
On parlait des insectes en général, c'est vrai que les insectes nous sont bien utiles. On le voit de plus en plus d'ailleurs en criminologie et autres, hein, les insectes sont pas mal utilisés, la connaissance des insectes.
Oui, tout à fait, parce que quand un cadavre est trouvé, il est très important de pouvoir déterminer l'heure de la mort, Parce que déterminer l'heure de la mort, c'est déterminer, c'est en fin de compte connaître l'agenda de la personne à cette heure-là. Ça permet de savoir qui l'a rencontré, qu'est-ce qu'il faisait, où il était, quoi. Donc, déterminer l'heure de la mort, c'est très important en criminologie. Alors, il y a des moyens, quand le cadavre est récent, il y a des moyens, notamment la température interne du corps, qui permet de... Les médecins légistes ont des abacs qui leur permettent de déterminer, en fonction de la température ambiante, en fonction du poids du corps, en fonction de la température interne des viscères, leur permettent de déterminer l'heure de la mort. Il y a aussi la possibilité de ponctionner l'humeur vitrée de l'œil et de doser le potassium dedans. C'est une autre voie pour déterminer l'heure de la mort. Maintenant, à partir de la 70e heure, tout se planifie. Le corps est à la température ambiante, le potassium est dans un palier. Donc il n'y a plus moyen, avec des moyens chimiques ou d'observation macroscopique, de déterminer l'heure de la mort. Mais dès que la mort est survenue, il y a des insectes qui viennent dessus. Surtout si le cadavre est à l'extérieur, bien sûr. Hein. Et les premières à venir dessus sont des mouches. Alors, au XVIIIe siècle, il y a un vétérinaire qui était un officier de cavalerie, qui s'appelait Pierre Méguin, qui s'est intéressé à ça et il a vu que il y avait les insectes arrivaient pas tous en même temps, mais ils arrivaient par escouade. Hein. Et Méguin a déterminé qu'il y avait 8 escouades supplémentaires consécutives qui arrivaient sur un cadavre du jour de la mort jusqu'à un an. Et ça a été la première direction de l'entomologie vers la criminologie. Après, au XXe siècle. Alors, Méguin était du 19e, hein, au 20e siècle, il y a eu pas mal de gens qui se sont intéressés à ça, notamment en Belgique, un gars qui s'appelait Marcel Leclerc, qui était médecin, légiste, entomologiste, et il y a eu aussi en Suisse Claude Weiss, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et surtout, quelqu'un à qui on doit beaucoup, c'est Marchenkov, qui était un entomologiste russe, et qui, lui, a fait une découverte qui était très importante. Il savait que les mouches arrivaient tout de suite sur le cadavre, alors il s'est mis à étudier toutes ces mouches. Alors il prenait une espèce de mouche, il la faisait pondre, et il élevait les œufs à 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, 10 degrés, enfin, etc., jusqu'à une trentaine de degrés. Alors ça lui a demandé des années. Et alors, il s'était aperçu que quand on élève une mouche, par exemple, à 10 degrés, elle va mettre 20 jours pour se développer, pour arriver jusqu'à la mouche, de l'œuf jusqu'à la mouche. Et Marchenko dit, bon, alors, elle a reçu, en fin de compte, 10 degrés pendant 20 jours. Donc, en degrés cumulés, ça fait 200 degrés. Et puis, il essaye à 20 degrés, et il s'aperçoit que la mouche, elle met que 10 jours. Et il se dit, 10 fois 20, ça fait 200 degrés. Il essaye à toutes les températures, et quelles que soient les températures à laquelle il essaye, il s'aperçoit que pour se développer, la mouche a toujours besoin de la même accumulation de degrés. D'accord. Alors il dit, c'est formidable. Alors il fait ça pour toutes les mouches, et il fait des tables avec les correspondances. Telle espèce, il lui faut tant de degrés, telle espèce, il lui faut tant de degrés. Alors après, ça ouvre le champ à l'investigation policière, parce que si on trouve un cadavre sur lequel il y a des asticots, eh bien, la police criminelle prend ses asticots, les élève sur un milieu standardisé, bœuf, porc, viande de bœuf et de porc, et on les met, par exemple, à 20 degrés. Et on attend. L'asticot va se développer, va devenir une pupe, puis une mouche. Et là, une fois qu'on a la mouche, on prend la mouche, on la détermine, on dit, par exemple, c'est, comment ça s'appelle, Califora vomitoria, qui est une des mouches qui arrive tout de suite, une mouche bleue qui arrive tout de suite sur les cadavres. Et là, le criminologue dit, eh bien, j'ai mis ma mouche tel jour à 20 degrés, elle a éclos au bout de 10 jours, donc elle a accumulé 200 degrés. Après, il dit, c'est Califora vomitoria, en degrés cumulés, il lui faut 472 degrés. Donc ça veut dire que l'asticot a accumulé 272 degrés avant qu'on le mette à 20 degrés.
D'accord, ça permet de savoir.
Donc Marchenko, après, dit, bah, on va aller dans les stations météo et on va relever les températures moyennes qui se sont passées les jours qui ont précédé la découverte du cadavre, jusqu'à temps qu'on arrive à un total de 272 degrés. 272 plus 200 degrés que j'ai fait moi, il y a 472 degrés, la mouche a pondu tel jour.
C'est précis.
Et ça permet de remonter le temps.
Et avec toutes les espèces, ça fonctionne un peu pareil, puisqu'on peut remonter un an, vous l'avez dit, en arrière, hein, par rapport
les mouches vont être utilisées pour arriver à déterminer l'heure de la mort dans le mois et demi qui suit le décès, quoi. Après, il y a d'autres escouades, mais c'est beaucoup plus dur à déterminer exactement l'heure. Plus on s'écarte du décès, plus c'est difficile de déterminer la mort. Surtout qu'on s'est aperçu que les 8 escouades de Magnin existent bien, mais elles ne sont pas aussi tranchées que Magnin voulait bien le dire. Elles se chevauchent un peu, quoi, à certains moments. Alors, elles sont dans cette progression, mais elles se chevauchent. Alors, on peut pas... Après, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est de la criminologie. Il faut avoir un médecin légiste qui en parle.
Ben, on essaiera d'en faire venir
qui en parlera temps, certainement mieux que moi pour les...
Je pense qu'on arrivera à en trouver sur Poitiers un médecin légiste. On essaiera d'en faire venir en 2026.
Ouais, je pense.
Ben, écoutez, je vous remercie. Hein, il est un peu plus de midi maintenant. Il est bientôt midi 5. On va se quitter puis se retrouver une prochaine fois. On fera une émission ensemble sur l'écomusée de Saugé, justement, pour en parler. Hein, puisque
oui,
c'est,
si
c'est,
vous, c'est, oui, volontiers. Volontiers.
C'est le secteur de Montmorillon.
Oui, j'en parlerai au... responsable de l'écomusée. Je pense que ça, c'est une proposition qui sera accueillie avec enthousiasme.
Eh ben écoutez, je vous remercie en tout cas. Je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci d'être venu, à bientôt, au revoir.
Au revoir.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.